Notre Église, depuis quelques mois, lit et médite l'épître de Jacques. Nous nous insérons aujourd'hui dans le cycle des prédications et je lis les versets qui me sont assignés, qui nous sont assignés puisque nous les méditons ensemble au chapitre 4 de l'épître de Jacques, les versets 11 et 12. Jacques 4, 11, je lis dans la traduction de la Bible à la Colombe. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge. Celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. On raconte l'histoire d'un pasteur qui, monté en chair, a commencé exactement comme il avait commencé le dimanche précédent, répétant la même introduction, et continuant dans des termes identiques. Alors, au début, les gens ne réagissaient pas trop, mais il y a eu des remous, peu à peu, qui se sont manifestés dans l'assemblée. Et enfin, il s'est expliqué. Il a dit, « Eh oui, c'est le message que je vous ai apporté dimanche dernier. Mais comme je n'ai vu aucun changement dans votre conduite, je pense qu'il me faut renouveler l'exhortation jusqu'à ce qu'elle s'applique. La répétition a un sens. La répétition est d'abord l'instrument de la pédagogie. Il n'y a pas d'instituteur, de professeur qui ne soit appelé à dire très souvent la même chose. Et d'ailleurs, autrefois, on appelait les maîtres assistants des répétiteurs. La répétition souligne l'importance du sujet. Et c'est sans doute le sens de la répétition dans l'épître de Jacques du même thème de la parole, des paroles que nous prononçons les uns avec les autres, les uns sur les autres. C'est déjà un sujet que Jacques, l'auteur de l'épître, inspiré par Dieu, a lancé au chapitre 1er. Au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Et puis il a continué encore au verset 26, « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. » Au début du chapitre 2, il fait encore allusion à des paroles qui peuvent être prononcées. Quand tu dis à celui qui arrive, « S'il est riche, mets-toi à la place d'honneur. » Et aux pauvres, là, debout plus loin. Et puis, au chapitre 3, alors, il y a un très long développement qui concerne la parole. D'abord, le fait que personne ne réussit à parler de manière fréquente, en tout cas, sans achoper à quelque obstacle, sans commettre une faute. Si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme parfait. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a personne comme ça. Et le passage du chapitre 3 a deux images extrêmement parlantes pour montrer quels effets énormes peut avoir une parole qui paraît d'abord une si petite chose. L'image du gouvernail. Le gouvernail, c'est toute une petite pièce. Et selon la manière dont cette petite pièce est orientée, un énorme navire va se diriger d'un côté ou d'un autre. Et puis l'autre image, c'est celle d'un feu. Lorsqu'il commence, c'est rien, un petit feu, un mégot, hein, on le sait. Et puis toute une forêt qui s'embrase. Voilà des images que Jacques a employées antérieurement pour nous alerter sur l'importance du sujet. Et il y revient donc au chapitre 4, au verset 11. Ne médisez pas, ne parlez pas mal, c'est ce que veut dire le mot médire, et c'est exactement ce qu'on peut traduire littéralement dans ce verset, les uns des autres. Il revient encore parce que c'est un sujet tellement important. Et je vous invite donc à ne pas craindre certains éléments de répétition en concentrant de nouveau notre attention sur cette exhortation de celui qui est très probablement le frère, selon la chair, du Seigneur Jésus lui-même. Je n'ai pas peur de répéter, puisque je viens de dire que la répétition est un moyen qu'il faut mettre en œuvre, comme l'a fait Jacques lui-même, mais en même temps, j'essaierai de mettre en relief les éléments qui sont originaux dans les deux versets que nous venons de lire. D'abord, donc, l'importance de la parole, la nocivité des paroles négatives. Ne parlez pas mal les uns des autres. Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament avertissait déjà, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, dit le chapitre 12, verset 13 du livre des Proverbes. Pourquoi y a-t-il un piège? Parce que la parole, justement, ça paraît si peu de choses. Mais oui, nous disons ça comme ça. Nous plaisantions, c'est un mot de travers. Et un mot de travers va parfois jusqu'à causer des suicides. On le sait, de temps en temps, dans les nouvelles, on a des cas qui sont présentés juste un mot méchant et cela ruine. La ruine toute la vie personnelle de quelqu'un. Et parfois, c'est de découvrir qu'on a parlé derrière son dos, qu'on a dit des choses, parler mal les uns des autres. Et dans une église, les dégâts peuvent aussi être très, très considérables. Il peut y avoir vraiment des années de travail persévérant, de générosité fraternelle qui sont ruinées parce qu'on raconte quelque chose sur quelqu'un et que cela tord les relations des uns avec les autres. Alors, il faut y réfléchir un peu. La puissance destructrice de la parole, c'est l'envers de sa puissance de bénédiction. C'est parce que la parole est un don divin si précieux, un tel véhicule de bienfait, qu'une parole qui tourne mal produit des effets aussi catastrophiques. Mais la parole, une parole douce et à propos, nous dit encore le livre des Proverbes, c'est un arbre de vie. Proverbe chapitre 15, verset 4. Vous vous rappelez l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Voilà l'image qui est reprise pour caractériser l'effet d'une parole juste et bonne. Ailleurs, dans le livre de Job, par exemple, au chapitre 29, elle est comparée, la parole, à la rosée, à l'ondée, qui descend sur une terre desséchée et qui rend la vie. Ça, c'est aussi un effet possible de la parole. La parole est un don de Dieu unique pour l'humanité, qu'il a faite en son image. Bien sûr, il y a des systèmes de communication animale, mais c'est presque rien à côté de la parole, de sa souplesse, de la capacité qu'elle a de faire se rencontrer des esprits. La parole réalise une union qui n'est pas une confusion. Ce n'est pas comme quand vous mettez deux métaux à un point de fusion et qu'ils se mélangent. Non, les personnes qui se parlent deviennent une tout en restant plusieurs. C'est l'image même de l'alliance, où il y a union et en même temps où il y a préservation de l'identité des uns et des autres. C'est la parole qui en est le moyen. Et la parole, je dis que c'est pour la créature que Dieu a faite en son image, la parole caractérise le Dieu qui se révèle dans la Bible. Tout à l'heure, dans le psaume 115, il a été
question des idoles, des faux dieux. Et les faux dieux, ils ne peuvent rien dire. Ils ont un gosier, mais il n'y a aucun son qui passe. Vous avez noté ce verset tout à l'heure du psaume 115. Il y a un autre passage sur lequel j'aime aussi attirer l'attention. C'est celui qui se trouve au début du chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, où il évoque l'expérience religieuse de ceux qui sont maintenant chrétiens, c'est correspondant, mais lorsqu'ils étaient païens avant. Et il leur dit, vous vous rappelez que vous étiez attirés, entraînés irrésistiblement vers des idoles muettes. Dans le paganisme, il y a des forces, il y a des intensités d'expériences religieuses. Mais oui, ce n'est pas tout du charlatanisme, parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui sont aussi à l'œuvre, et peut-être aussi d'ailleurs des mécanismes de la psychologie humaine, de telle sorte qu'il y a des expériences fortes chez les païens du côté des faux dieux. Mais la différence que fait ressortir l'apôtre, c'est que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la parole. Et que l'esprit de ce Dieu qui est donné, il se manifeste par la parole Jésus est Seigneur. Voilà comment continue le paragraphe que j'évoque au début du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui parle, parce que c'est un Dieu qui ne veut pas des trucages, des forces crépusculaires. Il veut nous élever dans la responsabilité. Il veut précisément une union avec nous qui n'est pas une confusion, qui n'est pas un vague mélange, qui est une alliance dans la responsabilité du Père avec ses fils et ses filles. Donc la parole est d'un prix inestimable, et quel dommage quand elle sert au contraire à défaire, pourrir les relations entre frères et sœurs. Alors sur ce point, encore une précision. Il y a une distinction que l'on peut observer parmi ces mauvaises paroles qui ont des effets si malheureux. Il y a la différence entre la médisance au sens strict et la calomnie. La médisance, c'est quand on raconte des choses vraies. Mais ça fait quand même beaucoup de mal. La médisance, donc, n'enfreint pas une règle de correspondance avec les faits. Alors que la calomnie, elle use du mensonge. Ce sont des choses fausses que l'on dit, que l'on colporte. Voilà la différence entre médisance et calomnie. Alors évidemment, en général, la calomnie, c'est encore pire que la médisance, la simple médisance. Mais la médisance fait déjà beaucoup de mal. Et j'attire votre attention sur l'existence d'une zone grise entre les deux. Souvent, on croit qu'on raconte des choses qui sont quand même vraies. On a déjà tort, puisque c'est au détriment des relations fraternelles, parce que ça n'édifie pas. Mais on croit qu'on raconte des choses vraies, et ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une zone grise. Quand on sort des paroles hors de leur contexte, alors on a déjà un peu faussé le sens. Quand on décrit ce que quelqu'un a fait, mais on ne dit pas d'autre chose qu'il a fait aussi. Lorsqu'on ne cherche pas à comprendre, il y a toute une zone grise. Et l'exhortation donc, qui s'adresse à nous, premier point, et donc avec en jeu la communion fraternelle, c'est d'exercer une extrême vigilance. Que le Seigneur veille sur nos lèvres, qu'il soit comme une garde à nos lèvres pour que nous ne prononcions pas la parole qui aura un effet d'affaiblissement, de défiance, méfiance des uns et des autres. De honte mal reçue, de sentiment qu'on est diminué par les personnes avec qui on vit. Que le Seigneur place une garde sur nos lèvres, comme le demande un psaume, pour que nous ne prononcions pas des paroles de ce genre, qui ne sont pas tout à fait vraies, parce qu'elles ne sont pas empreintes d'amour, parce qu'elles ne sont pas selon la vérité qui construit l'Église. Ça, c'est la première chose, me semble-t-il, à mettre en valeur à propos de l'exhortation de Jacques. Mais vous pouvez le remarquer, ce que je viens d'expliquer, qui est biblique, n'est pas explicite dans les versets que nous avons lus, versets 11 et 12 du chapitre 4 de Jacques. Jacques ne prend guère le temps à cet endroit de développer dans le sens que je viens de faire. Il fait un détour qui peut nous étonner. Celui qui parle mal de son frère parle mal de la loi et juge la loi. Pourquoi ce détour par la loi? Voilà la question que nous pose, me semble-t-il, la manière dont l'apôtre, inspiré, disons le frère de Jésus, Jacques, inspiré de Dieu, a rédigé son chapitre 4. Pourquoi parler à cet endroit de la loi et ne pas se contenter de dire tous les dégâts que je viens d'évoquer? Bien sûr, Jacques était juif et il était resté très imprégné de la culture juive, de toute son éducation religieuse et pour le judaïsme. La loi de Dieu, c'est la référence suprême. On remarque encore dans le judaïsme de notre temps cet accent si fort sur la loi. Et donc, il me semble que c'est, en quelque sorte, sur la base de ce respect de la loi qui, en quelque sorte, l'imprégnait depuis son enfance et qui imprégnait sans doute aussi les destinataires de son épître, que Jacques fait ce détour par la loi. Ne croyez pas que les mauvaises paroles qui détruisent vos relations mutuelles soient une simple affaire entre vous. En fait, vous touchez à la loi de Dieu. C'est quelque chose, donc, qui concerne cette instance supérieure qui doit régler votre vie. Je crois qu'on, quand on se met au moins dans la peau de Jacques, on comprend pourquoi il a à cœur de souligner le rapport à la loi. Est-ce que cela nous concerne? Mais oui, ça devrait nous concerner. Parce qu'il y a une continuité quant au respect de la loi entre le judaïsme et le christianisme. Il n'y a pas le moindre doute à ce propos. Dans les épîtres, vous avez assez souvent des références au commandement de la loi. La loi est sainte, le commandement est juste et bon. Il y a dans l'histoire du christianisme des tendances qui sont très étrangères au Nouveau Testament à ce propos. On dit légalisme, légalisme. Mais ce n'est pas du légalisme que de respecter la loi de Dieu qui est, comme nous allons le voir, l'expression de sa volonté. Ce n'est pas du légalisme. Je me rappelle avoir lu autrefois un petit article qui évoquait de nouveau une situation. Il s'agissait des termes d'un contrat. Et alors, l'une des personnes dit « Oh, mais fignoler comme ça, est-ce que ce n'est pas un peu légaliste ?» Et l'autre lui répondre « Monsieur, le mot c'est légal. » Pas légaliste, simplement légal. Le Nouveau Testament nous annonce que nous ne sommes plus sous la loi, mais dans quel sens? Deux sens essentiellement, et il ne faut pas confondre donc cette libération du légalisme avec une absence de l'autorité de la loi. C'est d'une part au sens que nous ne sommes plus maintenant dépendants de notre obéissance à la loi pour être agréé de Dieu, pour être déclaré juste à son tribunal. Le légalisme, c'est de croire que la loi, c'est le moyen d'être justifié, acquitté au tribunal de Dieu. C'était ça l'erreur que commettaient les pharisiens et d'autres juifs à l'époque de Jésus. Le légalisme doit être combattu lorsqu'il implique cette profonde erreur qui, en fait, change le sens de la loi parce que ça devient un instrument par lequel nous, nous affirmons nous-mêmes comme des gens bien, comme, qui méritent finalement que Dieu les reçoive. Nous ne sommes plus sous la loi dans ce sens. Nous ne sommes plus non plus sous la loi que l'apôtre Paul appelle des ordonnances et prescriptions au deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, c'est-à-dire la loi des commandements provisoires, temporaires, que Dieu avait donné pour préparer la venue de Jésus-Christ, qui impliquait des figures des réalités de la Nouvelle Alliance, conclue en Jésus-Christ. Alors nous sommes libérés de ces commandements externes, rituels, aussi de ce qui avait trait à l'existence d'un État qui était peuple de Dieu en tant qu'État d'Israël. Cela, oui, bien sûr, c'était l'ombre des choses à venir, et c'est fini pour nous. L'apôtre Paul le dit clairement. Mais il n'en va pas de même des commandements qui expriment la volonté éternelle de Dieu, l'expression de sa nature même, au cœur de la loi. Là, Jésus lui-même, au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu, par exemple, souligne que cela demeure tout à fait impératif. Nous sommes toujours en dette à l'égard de cette loi. Nous avons à l'accomplir pour plaire à Dieu. C'est le bien. Et l'apôtre, Jacques, l'auteur de l'Épître, l'appelle de deux expressions assez intéressantes. Cette loi qui est l'essentiel de la loi de l'Ancien Testament et qui demeure pour nous la référence pour nous guider, la loi de la liberté et la loi royale. Au chapitre 1er, au chapitre 2. C'est la loi de la liberté parce qu'elle nous libère en vérité. Elle nous libère de l'esclavage des mauvais désirs, des mensonges du monde. Elle nous libère, cette loi. Et c'est la voie royale, c'est la loi qui prescrit leur conduite aux fils et filles du grand roi qu'est Dieu. Donc la loi demeure pour nous aussi une référence essentielle. Et donc celui qui parle mal de son frère, qui le juge, parle mal et juge la loi, dit notre texte. Comment est-ce qu'il y a cette extension, en quelque sorte, comment la loi est-elle affectée? Je pense de deux façons principales. La première, c'est que lorsqu'on parle mal d'un frère, on contrevient au commandement qui résume toute la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à cela que se résume toute la loi et les prophètes, dit Jésus lui-même, associé à l'amour de Dieu. Alors, quelqu'un qui est en train de raconter des choses qui ne ferait pas plaisir à celui qui est en cause, ou qui lui lance une parole mordante, il n'est pas en train d'aimer ce prochain. C'est assez clair qu'il contrevient à l'amour, et donc qu'il contredit la loi. Et puis je pense qu'il y a un deuxième sens, un sens plus profond. Celui qui juge son prochain, il usurpe le rôle de la loi. Car c'est la loi qui a été donnée par Dieu pour juger les conduites. C'est par cette norme que le bien et le mal sont définis et que les conduites, par conséquent, peuvent être évaluées. Celui qui le fait par lui-même, à partir de ses sentiments spontanés, enfin, il usurpe le rôle de la loi. C'est comme s'il disait, oh, la loi ne sait pas y faire, la loi est mal conçue, la loi devrait être laissée de côté. Donc il parle mal de la loi, il juge la loi. Voilà ce qui est en jeu dans la médisance. Et si nous comprenons cela, nous comprenons aussi la différence avec le jugement auquel nous sommes appelés dans la discipline de l'Église. Parce qu'il y a des passages qui nous disent de juger. En tant qu'Église, au chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'indigne parce que les chrétiens de Corinthe ne jugent pas. quelqu'un qui commet un péché très grossier, hein, qui a pris la femme de son père. Donc, Paul nous dit qu'là, il y a un jugement à exercer. Mais ce jugement n'est pas celui qui remplace le jugement de la loi. C'est simplement le respect du jugement de la loi. C'est la loi de Dieu qui, à ce moment-là, est évoquée. C'est l'autorité de référence. Et en plus, alors, le jugement est un jugement qui reste un jugement de la conduite et pas de la personne au sens ultime. Oui, Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Dans la discipline de l'Église, on est obligé parfois, oui, de dire non, là, cette personne ne se conduit pas comme elle devrait, mais on n'envoie pas cette personne au châtiment éternel. Et ses motifs secrets même ne sont pas évalués. Cela le laisse à Dieu dans l'exercice de la discipline. Et la discipline, on l'exerce non pas comme des gens qui peuvent s'ériger juge des autres, mais comme de pauvres pécheurs qui savent qu'ils tombent aussi eux-mêmes dans de nombreuses fautes et qui, dans la solidarité avec les pécheurs, les autres pécheurs, disent voilà ce que Dieu nous dit de faire pour assainir la situation. Voilà le sens de la discipline dans l'Église. Et vous voyez, c'est tout différent de ce que Jacques dénonce ici. Mais il ne s'arrête même pas à la loi. Après la référence à la loi, il y a la référence à l'unique, un seul, et législateur et juge. C'est unique, bien sûr, c'est le Seigneur. Il nous rappelle par là que la loi n'est rien d'autre que l'expression de la volonté personnelle de Dieu. Elle définit le bien parce qu'il est, lui, le bien. Un seul est bon, Dieu seul, dit Jésus, jeune homme riche. Et là, de nouveau, on peut parler de l'égalisme. Quand cette présence personnelle du législateur et juge Dieu est en quelque sorte comme oubliée derrière l'écran de la loi. La loi devient la référence et puis Dieu finalement il recule derrière. C'est le code des commandements qui devient la préoccupation, le point sur lequel tous les regards se dirigent. Ça aussi c'est du légalisme. Et on peut très bien comprendre comment les trois aspects du légalisme, j'en ai parlé de deux tout à l'heure, et maintenant j'en mets dans un troisième, sont liés entre eux. Quand on croit que c'est par l'observation de la loi qu'on pourra être justifié, qu'on pourra être sauvé, ben il est normal alors qu'on se concentre tellement sur les commandements, on oublie la personne qui est derrière. Et puis, c'est tout spécialement les commandements externes, les petits commandements qui règlent la conduite et le rituel. Parce que ceux-là, on peut espérer y obéir. C'est tout naturellement ces commandements-là, ordonnances et prescriptions, qui prennent une importance exagérée. Et on oublie l'essentiel de la loi, l'amour du prochain, parce que là, on a quand même besoin de se faire beaucoup d'illusions pour croire qu'on y obéit comme il faudrait, n'est-ce pas ? Donc, ces trois formes du légalisme sont très, très étroitement solidaires. Et pour contrer donc ce glissement à propos de la loi, Jacques nous rappelle que la loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu et notre relation à la loi, c'est notre relation à Dieu. Celui qui usurpe le rôle de la loi en se faisant le petit juge de ses frères et sœurs, au fond, il usurpe la place de Dieu. Un seul est le législateur et juge. Voilà l'enjeu, au bout du compte, de cette question de la médisance, de ces paroles par lesquelles on peut déblatérer sur les autres frères et sœurs, ou les prochains en général. Est-ce que nous sommes comme des petits dieux qui estimons que notre jugement, finalement, est le jugement final, Ou est-ce que nous acceptons de nous reconnaître pour ce que nous sommes? Qui es-tu? Toi qui juges. Est-ce que nous acceptons la lucidité de savoir que nous ne sommes pas seulement des créatures de la poussière, mais des pécheurs. Des pécheurs que la juste loi de Dieu, le seul juge parfaitement saint, condamne, perd un seul et juge et peut perdre. Voilà ce que nous rappelle cette parole contre nos tentations de nous ériger comme un petit Dieu dans nos rapports mutuels. Qui es-tu, toi qui juges? C'est lui qui peut perdre par la condamnation qu'il prononce. Mais Jacques dit qu'il peut sauver et perdre. Il peut aussi sauver. Dans notre situation de pauvres pécheurs que nous sommes, le Seigneur a eu pitié. Le Seigneur est intervenu. Le Seigneur efface, pardonne les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Le Seigneur est capable même de guérir nos paroles, faire de nos paroles dans la vie de l'Église des moyens de bénédiction, comme une pluie bienfaisante qui, après la sécheresse, fait reverdir toute la campagne, permet que la vie revienne. Le Seigneur peut et veut nous donner d'user de la parole de cette façon. Prêtons-nous à son action, au milieu de nous, en nous. Voilà le vœu auquel nous conduit l'exhortation de l'Épître de Jacques. Amen.